Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Bonjour. C'est moi, Orson Welles. J'aime pas trop les voleurs et les fils de pute.
Salut, c'est Nos Ciné, votre rendez-vous avec le cinéma qui se présente à vous là tout de suite sous sa forme d'Extra Ball, notre récréation hors format qui va nous servir aujourd'hui à évoquer Silvio et les autres, le nouveau film de Paolo Sorrentino, chouchou absolu de ma camarade Perrine Quetson qui est là pour en causer. Salut Perrine.
Salut Thomas.
C'est Nos Ciné Extra Ball spécial Silvio et les autres et c'est parti.
Monde de merde. Pourquoi il a dit ça? C'est ce que je veux savoir.
Alors, Silvio et les autres, si je ne m'abuse, Perrine, ça parle de Silvio Berlusconi. Est-ce que c'est ça?
Bien joué. Ouais, c'est ça.
C'est ça.
C'est
okay.
Ça. Bon,
juste là, j'avais bien suivi. Précisément, ça nous raconte quoi?
Alors, précisément, ça nous raconte quoi? Ça nous raconte juste une période assez courte, en fait, de la vie de Berlusconi, qui est encore vivant, hein, au demeurant. Mais on est vraiment sur l'année 2009 de Berlusconi. Il est plus au pouvoir.
Ouais.
Il veut retourner au pouvoir.
Il veut faire son comeback.
Il veut faire son comeback. Il lâche pas l'affaire. Et donc, c'est comment il va remettre les choses en marche. Mais ça, c'est vraiment la toile de fond. C'est pas tellement ce qui intéresse, même si ça en fait partie, mais c'est pas tellement ce qui intéresse Paolo Sorrentino dans le film. Le film, il faut savoir que la version qui va sortir, enfin qui sort en France de 2h30, c'est une version tronquée. Elle est sortie en Italie sous le nom de Loro en deux parties. Le film fait plus de 3h30.
Les deux parties
côte à côte font plus de 3h30. Voilà. Et nous, on a eu le droit à une version tronquée. Et ça se sent un petit peu, pour être honnête. Hein. On sent quelques coupes. On sent parfois même la mise en scène, je trouve, de Paolo Sorrentino, qui est une mise en scène très, pour ceux qui ont vu du Sorrentino, bah, très grandiloquente, toujours très impressionnante. Il prend le temps de poser sa caméra. Il fait des grands plans, souvent de bacchanal, comme ça, assez impressionnante. Qui là sont un tout petit peu cutés,
ouais,
quand même,
un petit peu ramassés
sur les bords, mais bon, ça n'enlève rien à la puissance du récit. En fait, déjà, faut se dire que dans le film, on retrouve toutes les obsessions de Paolo Sorrentino, c'est-à-dire la politique d'une part, c'est quelque chose qu'il a traité plusieurs fois, notamment dans Il Divo, pour en citer un. Donc c'est la politique,
je crois, sur le président du conseil précédent.
Le précédent, le précédent président du conseil qui est quelqu'un qui est complètement opposé dans le style. En tout cas, à Berlusconi. Après,
mais
les
assez corrompu lui aussi.
Voilà, mais la résultante est assez similaire, mais dans un style totalement différent. Ouais. Et donc voilà, mais surtout la politique italienne, évidemment, chez Sorrentino, c'est ça qui l'intéresse. C'est aussi de tirer un portrait de l'Italie à travers ses films en général, de la vanité d'une certaine façon, d'une grandeur perdue. Il est assez nostalgique, je ne sais pas si c'est le mot en tout cas, mais il est assez déçu un petit peu par son pays. Il lui renvoie bien dans la tête assez régulièrement. Même par l'époque en général, c'est-à-dire qu'il a toujours des personnages qui sont désabusés, des personnages qui sont même en décalage avec leur époque profondément. Ça se voyait particulièrement dans ce chef-d'œuvre absolu, j'insiste, sur La Grande Débeliessa, qui était sorti en 2013, un des films les plus importants de ces 30 dernières années. Et je pose là. Mais voilà, clairement, on a des personnages comme ça qui sont en décalage, qui essaient de retrouver un sens à leur vie. Et donc c'est assez amusant qu'il réutilise encore une fois le Tony Servillo pour cette fois-ci, qui était donc le personnage central, Jep de La Grande Débeliessa, et aussi Dil Divo,
qui incarnait déjà le
président du conseil. J'ai oublié son nom, je ne suis pas une spécialiste de la politique
italienne. Moi non plus, je te rassure.
Voilà, donc désolé. Mais donc voilà, cette fois-ci il réutilise Tony Servillo, qui est vraiment un acteur emblématique du cinéma italien.
Et de fait du cinéma de Sorrentino
maintenant. De Sorrentino évidemment, du cinéma italien en général. C'est quelqu'un qui a tendance à donner la température du pays, qui dénonce pas mal à travers ses rôles aussi. Et donc, ce qui est intéressant, c'est qu'évidemment, on s'attend à un portrait de Berlusconi, un portrait à charge. Et c'est là où le film est assez intéressant. C'est-à-dire qu'en soi, bon, il n'est pas en train de dire que Berlusconi, c'est un mec sympa. Hein. Jamais, à aucun moment, il va en faire un type cool.
Oui.
Mais il ne s'acharne pas non plus. C'est-à-dire que pas besoin d'aller dans les caricatures, pas besoin d'aller dans quelque chose d'excessif. Il suffit juste de montrer Berlusconi pour comprendre que ce type, c'est quand même un sacré rapace, quoi. C'est vraiment un sacré salaud. Et ce qui est intéressant, c'est que le portrait démarre sans qu'on voit jamais Berlusconi. C'est-à-dire qu'on commence le portrait de Berlusconi par ceux qui l'entourent, par ceux qui veulent l'atteindre. On a le personnage de Riccardo Scarmaccio, qui est un type qui veut s'élever dans la société, qui veut, voilà, qui a un espèce de je sais pas de mafieux, c'est pas le mot, mais bon, il a des méthodes de mafieux, ouais. qui veut à la petite semaine dans une petite ville d'Italie, et qui veut clairement monter les échelons, et qui se dit que le seul moyen pour y arriver, c'est d'atteindre Silvio Berlusconi. Donc à chaque fois, on voit des personnages qui parlent entre eux de Silvio, lui, mais sans jamais qu'on le voit. On a juste son portrait parce qu'en disent les autres, et la sorte d'admiration qu'ils ont, oui, pour lui, une admiration un petit peu teintée de aussi tout le monde sait ses méthodes, tout le monde sait comment il est. On le juge, mais on aimerait bien faire comme lui. Et après, on arrive vraiment sur le personnage de Berlusconi. C'est assez amusant. Riccardo Scarmaccio organise une énorme soirée dans une villa en face de celle de Berlusconi, qui est en, j'ai peur de dire une bêtise, en Sardaigne. Et parce qu'on n'est jamais à Rome, très très peu. Oui. Non, on n'est jamais d'ailleurs à Rome. Et donc voilà, on a cette grosse soirée pour lui attirer son regard.
Pour l'attirer.
Et en fait, finalement, lui est dans son jardin, voit cette espèce de bacchanal en face de chez lui, et retourne dans son immense villa, comme si une de plus, une de moins. Oui. Et là, on arrive sur ce personnage-là. Et donc, il le dépeint comme évidemment un menteur, mais surtout comme un vendeur. C'est assez fascinant. Il y a une scène incroyable, une espèce de one-man show de Tony Servillo, formidable, une scène complètement fictive, où il appelle une Italienne, comme ça, genre il sort le bottin et il appelle une Italienne au hasard.
Pour la convaincre d'acheter un appartement.
Pour la convaincre d'acheter un appartement, exactement. Et il est là, un appartement qui n'existe pas du tout. Et il va retourner
juste
le cerveau.
Juste pour se prouver qu'il est capable de convaincre encore.
Exactement, qu'il est capable de convaincre, qu'il est capable toujours de vendre de l'illusion. Oui. Ce qui est son fonds de commerce, en fait. Et c'est pour ce quand même, parce qu'il est dans cette reconquête de pouvoir, clairement, et là, il est en train de se redonner un petit peu de baume au cœur, un petit peu un ego boost à travers ça, en disant, si j'arrive à convaincre cette femme, j'arriverai à convaincre l'Italie de me remettre au pouvoir. Oui. Et donc, c'est assez intéressant. Il est très pathétique, c'est un personnage pathétique, c'est un personnage qui s'écoute beaucoup, c'est un personnage qui combat le temps avec ses implants capillaires, avec, oui, sa peau burinée par les UV. C'est un espèce de clown triste permanent. Et donc, encore une fois, Paolo n'est pas en train de... Paolo, parce que je le connais bien.
C'est un copain.
Bien sûr.
C'est un pote.
Non, mais voilà, Paolo Sorrentino n'est jamais en train de dire il faut admirer ce type-là. Il y a une forme d'admiration, d'une certaine façon. C'est-à-dire, c'est
une
incroyable qu'un type...
Peut-être.
Ouais, une fascination. Ouais. C'est-à-dire, comment ce type-là... peut être, a pu autant squatter le pouvoir, a pu autant avoir de pouvoir, parce qu'après il y a les chaînes de télé, il y a tout ce qu'il possède, oui, à côté. C'est quelqu'un de richissime, c'est, je sais plus, je crois que c'est la 9e fortune d'Italie ou un truc comme ça, enfin, c'est quelque chose d'assez fabuleux. Comment ce type qui est un marchand de tapis a pu s'élever aussi haut, avec sa vulgarité, avec son rapport aux femmes qui est détestable. Ça, il en fait, il le montre. Alors, encore une fois, alors, c'est un festival de petits culs, hein, le film, hein, clairement. Ça, c'est
bunga.
Juste. Les bunga bunga, elles sont là. Il n'y a pas de problème. Mais encore une fois, Paolo n'est pas en train de dire que c'est quelque chose de bien. Il montre bien le regard libidineux, le regard, et en même temps, triste de ce type, oui, qui a besoin de s'entourer de ça, de jeunes filles, pour se rassurer sur sa propre virilité.
Oui.
C'est quand même triste de chez triste. Et en même temps, c'est là où ce qui est intéressant dans le film, c'est tout le titre qui est là-dedans. Le titre est Loro, donc. Ça veut dire les autres, en gros. Enfin, oui, leur, les autres, c'est la troisième personne du pluriel en italien. Et parce qu'en fait, il n'est pas à charge sur ce Berlusconi. Il est à charge sur ceux qui l'entourent. Il est à charge sur le peuple italien. Il est à charge sur deux types de personnes, à la fois ceux qui l'ont mené au pouvoir, le peuple qui l'a élu. Donc, comment le peuple a pu se laisser berner à ce point-là? Il en veut beaucoup. Parce que voilà, qu'il soit un marchand de tapis dans son coin, c'est son problème.
Oui.
Mais que d'un seul coup, on lui permette d'atteindre le pouvoir, ça, c'est un autre souci. Et encore plus, il en veut à tous ces espèces de Machiavel autour de lui, tous ces espèces de Rastignac qui veulent absolument eux aussi une part du pouvoir et qui vont se servir des méthodes de Berlusconi, se servir de lui se rapprocher de lui pour eux aussi avoir leur part du gâteau. Et là, il les rate pas. Ceux-là, il les rate pas du tout. Et il va juste il va les pilonner en place publique. Mmh. Et c'est ça que je trouve assez fascinant. C'est là où, encore une fois, il y a tout le mordant de Paolo Sorrentino. Il y a toute la force et la violence de Paolo Sorrentino sur son propre pays. C'est un film qui a été difficilement accepté dans son pays. Oui. Parce que les Italiens, ils aiment pas trop qu'on... Enfin, personne n'aimerait ça, d'ailleurs. Personne aimerait qu'on mette le nez dedans. Sinon, il y avait un film comme ça qui nous attaquait sur ce qu'on avait pu faire au niveau de nos politiques ou quoi que ce soit. Il suffit de voir n'importe quel film qui se fait sur l'Algérie. On se vexe en deux-deux. Donc, on n'aime pas du tout qu'on nous mette le nez dedans. Et ben, c'est pareil pour les Italiens. Donc, c'est pour ça que le film a une force démentielle. Et encore une fois, on a tous, évidemment, ce style incroyable. Je l'ai dit au début, mais je le répète parce que vraiment, ce qui est fabuleux chez Sorrentino, c'est une espèce d'un mélange de classicisme et de modernité totale, des grands panneaux, des plans très signifiants qui ressemblent à des tableaux. Parfois, on a l'impression d'être dans du Caravage tellement c'est incroyable en termes de cinématographie. Le film est stupéfiant. Il n'arrête pas d'alterner, évidemment, entre le drame et l'humour. Toujours, c'est un personnage, on n'oublie pas que c'est un espèce de au fond, c'est presque comique de voir Berlusconi trafiquer avec des députés ou des sénateurs pour retourner au pouvoir avec des vraies grosses méthodes de mafieux. Donc, en permanence, il est dans cette critique-là. Il y a un première scène incroyable avec un mouton qui regarde la télé et qui finit par mourir. Et donc ça, c'est absolument fabuleux. C'est-à-dire que tout le film est contenu dans ce plan, en réalité. C'est-à-dire qu'il considère le peuple italien comme des moutons et qui est fasciné par la merde. Donc, parce que c'est un jeu télévisé produit par Berlusconi. Et il dit, vous vous laissez captiver par ça et vous allez mourir. Et je trouve que c'est assez... encore une fois, c'est très, très à charge. C'est comme d'habitude, c'est grandiose. Et puis surtout, ça, c'est très contemporain, puisque à travers ce type de critique et de la société italienne et de Berlusconi, il engueule le monde entier qui fait ce même type d'erreur, comme par exemple, finalement, quelqu'un comme Trump qui se retrouve élu aux États-Unis. Si un Trump a pu être élu, c'est littéralement parce qu'un Berlusconi a pu arriver au pouvoir. Oui. C'est le même type de personnalité. Donc, il est vraiment, vraiment en colère contre les gens, mais toujours il le fait de la plus belle des manières. Donc je recommande, plus que recommande évidemment, d'aller voir Silvio et les autres.
Loro. En version originale, c'est à découvrir donc au cinéma, et notre temps est écoulé. Merci beaucoup Perrine, merci à Jules à la technique, à l'antenne Paris pour l'accueil, binge.audio pour toutes les infos utiles. On vous dit à très vite.
Binge.
When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's stamps.com, code PROGRAM.